Voilà, ce soir j'ai envie de parler de la pleine conscience, ce qu'on veut dire par ce terme dans un contexte comme celui-ci. Comme vous le savez, la pleine conscience est tout à fait à la mode de nos jours. Et c'est une merveille, quelque part, d'élever son plan de conscience, que les êtres puisse avoir cet accès à ce que ça peut vouloir dire d'être pleinement conscient. Et donc cette apparition dans tous les domaines, que ce soit l'éducation, le domaine bien sûr médical, même le monde du sport, de l'entreprise aujourd'hui, intègre cette notion. Donc on la voit vraiment apparaître dans tous les contextes. Et avec une certaine note d'humour, en fait, j'ai pas vérifié, mais il y a juste 2 jours, j'ai reçu d'une amie une application qui disait cuisiner en pleine conscience. Je ne sais pas ce qu'elle avait en tête, elle, mais moi j'ai souri. Et c'est évident qu'il y a un engouement et que, comme toute belle chose, elle peut se tarir lorsqu'elle devient comme ça expansive et toucher tous les aspects. Donc je crois que c'est important pour nous de nous donner le temps, et comme nous avons le temps ici, puisqu'on est en présence, d'explorer cette notion à nouveau. Qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est une exploration. Il y a beaucoup de différentes manières de comprendre ce terme. Beaucoup d'implications aussi. Et je ne suis pas là pour donner des réponses, mais c'est vraiment dans un certain sens, par le biais de ma propre pratique, ma propre compréhension, et aussi par le biais d'avoir pu discuter dans un certain contexte d'enseignant Vipassana, on peut dire. On a des débats entre nous. Comme les anciens avaient des débats, et c'est très intéressant de vraiment explorer cette question. Et vous pouvez vous-même, j'imagine, dans votre contexte, quel qu'il soit, si vous êtes thérapeute ou éducateur ou explorateur d'un domaine ou d'un autre, avoir à cœur d'avoir des notions et qu'il est tellement important de les questionner. Vraiment de ne pas prendre les choses pour acquis. On peut ouvrir une fenêtre. Donc on peut vraiment avoir à cœur ici de choisir de prendre cet aspect et de l'explorer dans un, merci, dans un sens d'un vécu. Et que la question, à la fin de l'exposé, peut rester entière. Et que ça me va bien, parce que c'est important qu'elle reste entière. Et qu'on ne saute pas sur des conclusions, on a tellement hâtivement besoin de réponses. Donc on navigue dans un monde virtuel, de moins en moins ancré dans notre être. C'est évident qu'on est vraiment appelé à être branché d'une manière ou d'une autre, et que ça nous éloigne quelque part de notre être en tant qu'être terrestre. Et la pleine conscience nous aide donc à être plus présent, moins perdu, moins happé dans nos activités, perdu et confus dans le sens de confondre le passé et le futur, et même qu'on peut se perdre dans le présent en le conceptualisant. Donc il n'y a aucun doute que là, il y a plein de notions qui déjà sont immensément riches quant au positionnement. À quoi ça sert? Quel est le sens? Être conscient, quelque part, devient indispensable. Et comme le dit le monde même de la psychologie, pour notre propre équilibre mental. Vraiment prendre appui sur ce qui est bénéfique pour nous, pour qu'on ne se perde pas au point de ne plus savoir où se situe la réalité du virtuel. Donc ça, c'est déjà une immense implication. Et certainement que pour beaucoup de personnes, ça a un sens. S'il y a tellement de gens qui s'intéressent à la méditation aujourd'hui, c'est certainement pour une raison tout à fait claire. Donc, dans ce contexte-ci, ça implique aussi ne pas être constamment sous pression et se perdre au niveau de nos réactions. Donc, il ne s'agit pas simplement d'apaiser son mental, son esprit. On parle de l'esprit singe qui sautille à droite à gauche, qui se perd et qui va d'une branche à l'autre, qui naturellement est notre manière d'être, où on est vraiment des papillons qui virevoltons. Et il y a déjà la prise de conscience de ceci lorsqu'on commence à être un petit peu plus en lien avec soi-même. Et déjà là, on sent un bienfait. Le fait d'être un tout petit peu plus centré, plus calme, déjà se donner l'espace de se rendre compte de, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Quelle est l'expérience présente? Ceci est déjà d'un immense soutien et bienfait. Donc le terme de méditation, il est souvent un peu incompris, je dirais. Dans ce sens que le terme, dans la tradition, en pali, le mot est bhavana. Méditer, c'est bhavana, dans le sens de cultiver. Donc ça implique qu'on cultive quelque chose, qu'on pratique quelque chose. De la même manière qu'on cultive un champ. Et le Bouddha parle de cultiver un champ de patates. Donc, comme on cultive un champ de pommes de terre, on s'adonne à voir combien on arrose, quand on doit retourner la terre, comment on la prépare. Donc, il y a vraiment ce sens de cultiver et au sens agricole du terme. Et c'est très bien ainsi, dans le sens qu'il ne s'agit pas d'une simple passivité. Et on peut être ici un petit peu trompé, parce que il y a cette qualité d'immobilité pour vraiment aller à l'intérieur, mais en même temps, introspectivement, il y a une activité. Donc la méditation est cultiver une attitude pour découvrir quelque chose au présent. Donc méditer, si vous voulez, est une activité. Le sens de la démarche est l'éveil dans ce contexte-ci. Spirituellement, s'éveiller, se réveiller. Quelle que soit l'expérience, on peut se réveiller. Et il y a vraiment ce terme qui est employé et qui est tout à fait judicieux pour cultiver une qualité. On s'entraîne d'instant en instant à être pleinement conscient et découvrir ce qui émerge en nous-mêmes. Donc on se dispose d'une certaine manière. Et la plupart d'entre nous, c'est « Ok, j'ai compris, bon, je suis présente, il y a une sensation corporelle ou une respiration, et puis alors ?» Et puis alors, on en a fait le tour. Vous avez certainement fait le tour de votre qualité de présence au ressenti de la respiration en lien. Eh bien, on cultive cette attitude, cette qualité, on entraîne son esprit d'instant en instant, et c'est dans ce rapport à l'expérience présente qu'on va découvrir quelque part la vérité, le lien, ce qui est vrai, ce qui est perçu comme étant le sensible. Donc il ne s'agit pas d'une fois, mais mille fois. 15 000 fois, 100 000 fois. Donc d'instant en instant, si vous voulez, on nourrit cette attitude. Donc comme l'a dit Charles ce matin, la méditation, c'est cette attitude, quelle que soit l'expérience. C'est là que se situe la présence, avant tout, être conscient, être en présence. Donc, comme je l'ai dit, il s'agit d'une attention. Maintenant, ce n'est pas une attention ordinaire dans ce contexte. De toute évidence, dans notre quotidien, et il y a beaucoup de personnes qui sont attentives. Comme je le dis toujours, j'ai l'exemple très parlant de quelqu'un qui a essayé de voler. Et quand il a essayé de traficoter la serrure de la porte de ma voisine, eh bien, je pense qu'il était extrêmement attentif. Il devait être attentif. Il n'était pas pleinement conscient. C'est un exemple extrêmement parlant, mais ô combien important. Donc, une attention peut être ordinaire. Je prends un verre d'eau, je prends ce verre, je suis attentive. Donc là, il y a une dimension d'une attention complètement ordinaire, neutre, ni bénéfique, ni maléfique, pas d'hostilité. Quel sens est-ce qu'on peut donner à cette qualité de pleine conscience qui est cultivée où il y a cette dimension de libération de la souffrance? Qu'est-ce que vous donnez comme définition? Je vais vous donner la... Peut-être qu'on... Désolée. Le temps est capricieux, non? Donc, qu'est-ce que vous donnez? Je vous permets de vous exprimer. Quelle est votre définition de la pleine conscience, si vous avez envie de vous aventurer? Il y a quelqu'un qui aimerait simplement dire quelque chose? Dans le sens de la qualité de l'attention? Donc là, ici la définition c'est s'il y a de la confusion, qu'on prend une chose pour une autre, s'il y a de l'aversion, ce n'est pas de la pleine conscience. C'est ça? C'est une attention qui n'est pas synonyme de pleine conscience. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein, parce que... Il y a quelqu'un qui a envie encore de donner une définition? Explorateur que vous êtes. Donc on peut dire, on dit que c'est une attention non jugeante. Vous avez entendu ce terme, certainement, non? Une attention non jugeante, qu'est-ce que ça implique? Qu'il n'y a pas de jugement particulier pour ou contre. Une attention qui est sans attachement ou aversion. Une attention qui comprend une certaine dose d'empathie. Donc tout ceci sont des termes, des définitions. Il y en a d'autres. Mais déjà, cette dimension d'être attentif est un excellent point. C'est tellement important par rapport à notre mode d'être habituel qui est d'être totalement distrait, dispersé, pas présent. Pas attentif. Mais être attentif est un bon point, ce n'est pas suffisant. Et je vais à nouveau prendre un petit exercice. Donc là, je pense que tout le monde est partant pour le petit exercice, j'espère. Si vous voulez bien joindre vos mains. Donc vos mains peuvent se toucher de la manière dont vous le souhaitez. Est-ce que vous pouvez être conscient des sensations? Est-ce que ça demande beaucoup d'efforts? Pas beaucoup d'efforts. Donc, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'efforts pour être conscient des sensations dans cette main. Donc, déjà là, on comprend quelque chose. C'est qu'on fait beaucoup trop d'efforts pour être présent. Tellement peu d'efforts. Maintenant, vous êtes conscient des sensations? Est-ce que vous êtes conscient du fait d'être conscient des sensations? Est-ce que vous vous rendez compte de la différence? Je suis consciente des sensations dans mes mains et je suis consciente du fait d'être consciente de mes sensations. Vous remarquez la différence? Il y a un positionnement légèrement différent. Conscient des sensations, je suis concentrée sur les sensations. Conscient du fait d'être conscient, je suis tout simplement présente, pleinement consciente à cette expérience. C'est cette qualité-là qu'on développe, qu'on nourrit et qu'on cultive d'instant en instant. La conscience d'être conscient. Donc, pas temps perdu dans l'expérience. Ça a du sens? Bien. Ben ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes, je crois, qui confondent l'un et l'autre. Alain disait, savoir, c'est savoir qu'on sait. Savoir, c'est savoir qu'on sait. Nous, ici, dans ce contexte, on dirait plutôt, savoir, c'est être conscient de savoir. Savoir, c'est être conscient de savoir. Donc le fait d'être conscient prime sur ce qu'on sait. Voilà pourquoi nous passons tellement de temps à gamberger ou à vouloir cette expérience et pas celle-ci. On a des préférences. On veut ça, on veut pas ça. On veut être toujours ailleurs. On veut pas l'instant présent. On veut... Voilà. Ça, c'est de la confusion. Parce que les expériences, elles sont ce qu'elles sont. Et on se leurre à croire que cette expérience qu'on veut tant va naturellement nous apporter un état d'être absolument extraordinaire. Sans... Donc, on est constamment dans ce registre de vouloir être ailleurs ou de vouloir autre chose. Quand on commence à se positionner pour être en découverte simplement conscient, c'est là qu'il y a une nourriture, une qualité de vie, de vécu, de ce qui est éprouvé, et on est moins dans cette dimension de préférence de vouloir ceci, pas cela, ça, pas ça. C'est bien, c'est pas bien. Je veux pas. C'est là qu'on vit. Réaction. Donc, la pleine conscience a vraiment cette dimension de nous positionner à pouvoir être simplement conscient de ce qui est. Et c'est la simplicité qui va nous aider à nourrir cette qualité d'être pleinement conscient. Pas tant dans le registre de cette expérience ou celle-ci. Achan Sumedho, qui était l'abbé pendant tellement d'années, qu'il a pris sa retraite récemment. C'était l'abbé de la tradition de la forêt de Thaïlande. Et il y a beaucoup de livres de sa part qui ont été traduits en français et je vous conseille, si jamais vous n'avez pas lu ces livres, il y a vraiment de très bons textes et qui parlent. Et un de ces textes, il le nomme Attention et Libération. Attention et Libération. Achan Sumedho, Sumedho. Il dit, nous savons tous que l'attention est une des qualités de la conscience, les plus précieuses pour le développement intérieur. Si vous le souhaitez, développement spirituel. Nous savons peut-être aussi qu'il y a différentes sortes d'attention. En prenant comme perspective la libération de la souffrance ou de l'insatisfaction, nous pouvons dire qu'il y a deux sortes principales d'attention, l'attention juste et l'attention erronée. L'attention juste mène à une libération de l'ego, tandis que l'attention erronée conduit à un emprisonnement encore plus profond dans l'ego. Ces deux sortes d'attention se distinguent. Donc là, c'est tellement important de savoir de la manière dont on pratique. Elles se distinguent par l'attitude, donc l'aspiration, l'intention qui motive son développement. Donc, quelle est l'intention, l'aspiration? Dans le sens de qu'est-ce que je souhaite? Quel est le sens de ma démarche? Comme on le sait, c'est une des qualités. Quel est le sens de la démarche? Quelle est l'intention? Pourquoi je médite? Pourquoi je pratique? Pourquoi je cultive cette attention? Donc, ces deux sortes d'attention se distinguent. Un, l'attitude qui motive son développement. Quelle est l'attitude? Et deux, la manière dont elle est développée. Donc la manière dont on pratique. Pour correspondre à l'attitude juste, dans le sens de se libérer de la souffrance ou du conditionnement, le développement de l'attention doit être pratiqué encore et encore avec une attitude juste. Et il dit, ceci ne revient pas à dire simplement avec le désir d'atteindre l'éveil, mais plutôt développer l'attention dans le cadre juste. Et avec un petit peu de chance, nous vous donnons les outils, les aides pour développer cette qualité d'attention dans le cadre juste. Ce cadre est naturellement propice à l'exploration intérieure. Lorsque je vous donne tous les éléments pour faire la différence entre une attention ordinaire et la pleine conscience, c'est le cadre juste. Lorsque nous avons à cœur de comprendre la différence entre la confusion et la compréhension, c'est le cadre juste. C'est normal. Donc, on va nourrir encore et encore cette qualité de présence qui implique une certaine dimension d'être conscient. Ah, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'expérience présente? Maintenant, cette attitude et cette aspiration par rapport à la pleine conscience, c'est tellement important de comprendre que la pleine conscience n'a pas, et ça c'est un mystère, mais c'est un mystère absolument extraordinaire, s'il y a vraiment la qualité de pleine conscience, il n'y a pas d'avidité, il n'y a pas d'hostilité et il n'y a pas de confusion. Pas d'avidité, c'est-à-dire qui grignote encore et encore et encore une soif insatiable. Il n'y a pas d'hostilité dans le sens d'aversion, de rejet. Donc ni attachement, ni aversion. Un moment de pleine conscience est simplement un moment de pleine conscience. Donc il n'y a pas d'attachement et il n'y a pas d'aversion. Et parce qu'il n'y a pas d'attachement et d'aversion, il n'y a pas de confusion. Parce qu'il n'y a pas de confusion, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas d'aversion. Donc ces trois sont naturellement vont de pair. Donc qu'est-ce qui se passe, si vous voulez? Eh bien, ce qui se passe dans notre pratique de l'attention, c'est qu'on va se rendre compte, tiens, quelle est la motivation? Et la motivation, c'est de pouvoir être en présence et naturellement, il y a cette dimension bénéfique. Donc, dans le récit de Soumédo, il y a naturellement cette dimension d'éthique. Et ça, c'est important, je crois, aujourd'hui. Il y a vraiment, dans un contexte comme celui-ci, la dimension d'éthique, non pas au niveau moral, mais au niveau psychologique. C'est-à-dire, ce qu'on va nourrir, c'est une attitude, une qualité de présence pleinement conscient qui a comme sens la paix, l'harmonie, ce qui est bien, ce qui est un bienfait pour nous, ce qui est bon pour nous. Et ce qui, naturellement, à ce moment-là, est bon pour autrui. Donc voilà ce qui implique le sens de la démarche. Il y a quelque part une qualité de présence qui inclut la sagesse, ce qu'on peut nommer la sagesse. Pleinement conscient et sage. Sage dans le sens de non-agressivité, de bienfait, de bénéfique. Donc dans ce sens-là, un exemple qui est très souvent employé, c'est si j'ai un couteau dans la main, c'est pas l'objet lui-même qui va naturellement être l'outil qui peut faire du bien ou du mal. C'est l'intention de la personne et la motivation et ensuite l'acte qui est porté avec ce couteau. Si j'ai un couteau, je peux soigner quelqu'un et vraiment être un chirurgien extrêmement habile et sauver une vie, comme je peux porter ce couteau et naturellement nuire à une personne. Donc ça n'a rien à voir avec l'outil. De la même manière, la personne qui pratique peut avoir à cœur d'avoir une intention qui aide, qui porte le soin à autrui et à soi-même. Donc se nuire à soi-même ou ne pas se nuire. Et là, on comprend que l'attitude de la bienveillance qu'on a développée cet après-midi va de pair avec la présence. Et de plus en plus, c'est exactement les débats qu'on a eus avec nos confrères, on peut dire. C'est que on ne peut plus séparer aujourd'hui. Et vraiment, les enseignements vont dans ce sens que présence et bienveillance vont de pair. Ce sont vraiment les deux côtés d'une même main. Et ô combien important que cette dimension-là s'intègre petit à petit, progressivement. Ajahn Brahm, il vient d'écrire un livre dont le titre n'est pas « Mindfulness », mais le titre est « Kindfulness ». Et il est excellent dans sa manière de parler de cette dimension qui est si importante et qui, bien sûr, nous aide à nous positionner. Donc, ça ne veut pas dire aimer tout le monde, voilà, qu'on voit le monde bisounours et puis on va être tout tendre. Mais ça veut dire une attitude qui va dans le sens d'un accueil. Ça vraiment, ça nous permet de sortir de ce mode de réactivité, de conditionnement. On est tellement positionné à réagir. Et plus ça va vite, plus il y a cette dimension d'impulsion. Et naturellement, réaction appelle contre-réaction. Et donc, c'est un cercle infini de conditionnement. Ce qui implique que là, nous avons d'une manière très naturelle, envers soi-même et envers autrui, par la suite, bien sûr, en pratiquant un choix. Un choix conscient. Et ça, c'est énorme d'avoir un choix. Qu'on ne perpétue pas simplement les réactions et ce qui motive nos gestes, nos paroles, et même nos pensées. Donc, dans une certaine manière, le processus, toutes les expériences ont la même valeur. C'est ce qu'on dit. On ne commence pas à dire, voilà, la somnolence, Charles l'a dit, conscience, somnolente, conscience, au niveau de l'agitation. Dans le processus de la méditation, on ne va pas commencer à être pour ces expériences-là et pas pour. Mais il y a une manière à ce moment-là d'être en présence, d'être en conscience et de développer cette sensibilité d'y voir plus clair. Mais vraiment, et c'est tout le sens. La sagesse, ici, ça veut dire vision pénétrante. Et c'est la pratique qu'on fait ici. Donc vipassana, parce que c'est le nom de la méditation qu'on pratique, vipassana veut dire vision pénétrante, vision intérieure, vision profonde, si vous voulez. Et ça, c'est une importance. Ça veut dire que on voit profondément, on comprend profondément les causes du bien-être et les causes du mal-être, dans le sens du rapport à l'expérience. Et c'est génial parce que c'est exactement là qu'on va découvrir une autre disposition, une autre manière. Donc on comprend bien que tout ce sens de la pratique, cette vision pénétrante, est une vision intuitive, d'où notre présence ici, à pratiquer en silence, de manière proche, proximité de l'expérience, proche de soi. Donc vision pénétrante, vipassana ou vision intuitive. En anglais, on appelle ça la insight meditation. Donc insight, c'est intuition, pratique intuitive. Et quel est le sens de ce mot intuitif? Eh bien, vous prenez le dictionnaire et ça dit qui ne passe pas par le concept. C'est très clair. Qui ne passe pas par le concept. Vous comprenez ce que ça signifie, ça? Donc c'est un mode de connaissance qui n'est pas de l'ordre de la réflexion, de l'analyse, de la pensée. C'est juste un autre registre, un autre canal. Donc cette intuition, c'est ce qu'on développe. C'est ce mode, si vous voulez, de perception, de connaissance immédiate. Dans le dictionnaire philosophique, c'est dit obtenu par intuition de façon instantanée ou immédiate et qui ne passe pas par le raisonnement. C'est très clair. Qui ne passe pas par le raisonnement. Donc, par le biais des sens. Alors, on comprend là que la méditation, ce type de méditation, ben, elle se fait pas uniquement au niveau de réfléchir. Méditer ne veut pas dire réfléchir. Alors, il y a tout un temps où on va pratiquer exactement ça. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ben, je réfléchis, je me dis, est-ce que je suis vraiment présente à cette respiration? Est-ce que je suis dans le sensible? Où est-ce que je devrais être? Donc, il y a tout un temps où on va naturellement gamberger, ruminer, essayer de comprendre par le biais de la réflexion, par le biais des concepts. C'est normal. Et on passe beaucoup de temps là-dedans. Et tout à coup, une seconde d'intuition. Ça n'a pas passé par le concept. Et je comprends quelque chose. Ah, c'est extraordinaire. Et ça a le goût, quelque part, d'une autre expérience. C'est l'expérience directe. C'est le goût. Si on a médité et qu'on est encore là, c'est qu'on a goûté. Et on se dit, mais comment je suis arrivée? Donc je vais utiliser la pensée pour dire, mais qu'est-ce que j'ai fait là au fait? Ah là, j'étais juste, c'était génial, c'était vraiment ah, complètement présent. Waouh! Mais comment j'ai fait? Et voilà, je repars dans le raisonnement pour essayer de trouver le moyen et je me raisonne à savoir, mais comment j'ai fait? J'ai simplement laissé tomber le concept. Et on s'invite simplement à nouveau à laisser tomber le concept. C'est pas si évident. Hein? Mais pourquoi c'est pas évident? Parce qu'on s'est habitué, on a appris. On a appris à réfléchir. On apprend. Tout notre mode d'éducation est basé là. Et donc en plus, c'est un repère. Et comme pour moi, comme pour d'autres personnes, c'est tellement difficile de lâcher nos repères. Ça nous rassure. Donc ça prend le temps que ça doit prendre. Et c'est tout à fait normal. Et ça fait partie du processus d'habilitation. C'est excellent quand on commence à se rendre compte de ceci. Donc il y a une qualité d'attention, de présence. Ah ouais, ouh, perdu. Au moment où je me rends compte, pleinement conscient. Être conscient du fait d'être conscient. C'est magnifique, non? Si on est motivé à être un petit peu plus libre, même une toute petite diminution de notre insatisfaction, en tout cas cesser ou diminuer le leurre, la confusion qu'on va trouver, la richesse, le bonheur, la liberté dans un autre lieu que celui où on est, c'est déjà énorme. C'est énorme. Même déjà intellectuellement. Donc pour terminer, je vais juste vous dire en deux mots que cette sagesse, elle a trois niveaux. Donc pleinement conscient et sagesse vont de pair. Pleine conscience et bienveillance vont de pair. Donc si vous voulez, il y a la présence, cette dimension simplement bénéfique qu'on va cultiver. Qui est bénéfique plutôt que ce qui est nuisible. Et naturellement, la sagesse nous permet d'être en conscience, de comprendre, ah, mais c'est comme ça et pas comme ça que je vais atteindre la liberté. C'est de cette manière-là. Et donc, la sagesse n'est rien d'autre que la compréhension intuitive. Totalement l'opposé à la confusion. Donc, trois niveaux. Le premier niveau de cette sagesse, il est dit dans l'enseignement, qu'elle vient de l'extérieur. C'est exactement ce que vous êtes en train de découvrir maintenant. Quelqu'un parle, vous entendez. Pas que j'ai beaucoup de sagesse, mais dans l'enseignement, voilà, je dis des choses, tiens, ça a un contexte et il y a une certaine information qui est donnée. On lit un texte, des enseignements sont donnés, on écoute un enseignement, des instructions. En fait, c'est du data qu'on enregistre. Premier niveau. C'est important. Si on n'avait jamais entendu ça, on ne saurait pas. C'est extrêmement important. Si on est là, c'est que quelque part, vous avez quelqu'un, une personne, il y a quelqu'un, il y a un lien là qui a fait que vous êtes là. Assis ici ce soir. Donc ça a débuté quelque part. Et puis le deuxième niveau, c'est ce qu'on reçoit de l'extérieur, on réfléchit. Et donc ça, c'est génial parce que ça compréhension. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine sagesse à la réflexion. C'est pas du tout qu'on cesse de réfléchir. Situé dans la réflexion, le questionnement. La clarification des idées à propos de l'information reçue. Donc ces deux premiers niveaux, c'est ce qui se passe maintenant. Il y a une traduction, il y a quelque part un lien qui se fait. Vous enregistrez de l'info, vous y réfléchissez. Ça, c'est ce qu'on a vraiment habituellement comme mode. Le troisième niveau est intuitif. Donc c'est la mise, si vous voulez, en pratique, dans le sens que cette sagesse-là, elle nous vient par la méditation. Et non pas la méditation qui est de l'ordre de la réflexion, parce qu'il y a des méditations qui nous font analyser, réfléchir des concepts, des idées. Ici, la méditation intuitive. Et la méditation vipassana est exactement ça. Insight practice. Et donc, la mise en pratique, cette sagesse-là, est intuitive. L'expérience directe, qui ne passe pas par le concept. C'est clair? Comment? Qualité directe, l'essence, le corps, le goût, le toucher. Conscience auditive, olfactive, gustative, visuelle, expérience, qui est toujours là, simplement qu'on ne lui donne pas sa place. C'est toujours là, mais on n'en prend pas conscience. Là, on lui donne une place de choix. Conscient. Présence gustative, présence visuelle, présence corporelle, présence. Et, alors vous me dites, mais alors le mental, il est où là-dedans? C'est le sixième sens. Et on comprend ça comme un sixième sens dans l'enseignement psychologie bouddhique. Pourquoi? Parce qu'on peut être conscient des pensées. On peut tout à fait avoir l'expérience d'une pensée. Pensée, image, mental, ou tout ce qui est de l'ordre de la conscience, des états mentaux. Calme, joie, tranquillité, énervement, frustration. Pas uniquement physique. Ça en fait de l'info. Hein. Mais en même temps, je crois que c'est tellement riche et important. Donc, on peut ne pas comprendre beaucoup d'éléments. Mais ce qui m'a tenu à cœur, c'est vraiment de pouvoir développer un petit peu cette pratique et vraiment, quand on parle d'enrichissement et de profondeur et d'approfondissement, qu'il s'agit vraiment de quelque chose qui va à la liberté du conditionnement. Et donc que la sagesse, à chaque instant, elle peut éclairer notre chemin. C'est pas dans un temps lointain, un jour peut-être, il y a la destination, sagesse. C'est vraiment en chemin. Le chemin même est un chemin de sagesse. On comprend quelque chose ici et maintenant. La liberté, c'est ici et maintenant. À chaque fois qu'on y voit clair, à chaque fois qu'on est juste. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, si vous voulez, le but, c'est le chemin. Le but est le chemin. Et voilà pourquoi on peut y prendre goût, parce que chaque expérience pleinement vécue est une expérience de clarté, de sagesse, et qui a un goût complètement satisfaisant. Et là, on ne se leurre plus à se dire, mais quand ça va arriver, ce moment d'éveil, on peut s'éveiller ici et maintenant, c'est vraiment à chaque instant. Voilà, donc il y a d'autres choses à dire, mais on les dira certainement à d'autres moments. Donc ces trois niveaux, c'est pas qu'on passe de l'un à l'autre, et tout à coup, hop, on tombe dans le niveau intuitif. Ils se succèdent. Présence corporelle, un vécu, une expérience directe, et l'instant d'après, ah, il s'est passé quelque chose. Et je découvre et je peux naturellement réfléchir à cette expérience qui vient de se passer. Donc, ces trois niveaux se succèdent. Donc, ce n'est pas qu'on se complète, s'alimente, se nourrisse les uns les autres. Je réfléchis. Puis après, je vis l'expérience. Je goûte. Je reçois plus d'informations. Je comprends un petit peu mieux. Puis, je mets en pratique. J'explore par le biais de la méditation. Donc vraiment, c'est une succession d'expériences. Voilà, ça va? Donc, je vais terminer avec un tout petit texte que j'espère avoir pris, qui est toujours de ce texte de Ajahn Sumedho, qui dit ceci, la présence, donc si vous voulez la pleine conscience, l'acte d'être conscient, l'acte d'être conscient. Donc il y a un acte à être conscient. À chaque instant, on cultive cet acte d'être conscient. La présence, l'acte d'être conscient est ton refuge. Conscience du changement des ressentis, des attitudes, des humeurs, des situations et également du changement émotionnel. Reste en toi-même, car c'est un refuge indestructible, l'acte d'être conscient. Ce n'est pas quelque chose qui change. C'est un refuge en lequel tu peux avoir confiance. Celui-ci n'est pas créé, ce n'est pas une fabrication. Ce n'est pas un idéal, comme je viens de l'exprimer. Il est très concret et très simple. Mais on peut si facilement passer à côté sans le voir. Quand tu es attentif, tu commences à voir que c'est simplement ainsi. Voilà, j'espère que ce sont des mots qui nous inspirent et qui nous donnent l'envie de persévérer, de continuer à explorer la méditation. Merci de votre attention.